France. C'est avec Michael Ponge qui présente le rendez-vous d'Haïti et des Amériques. Michael, bonjour.
Bonjour Gilles, il est 8h10 à Mexico. Méga chantier à 10 milliards de dollars. Le train Maya du président mexicain Obrador a du plomb dans l'aile, mais le gouvernement n'entend pas y renoncer. Explication dans un instant. Chili, Pérou, Bolivie, trois pays qui ont récemment basculé à gauche en Amérique latine. Comment l'expliquer? On en parle avec notre invité du jour. Avant de vous retrouver, Odana Gialli, pour le journal de la première, on parlera de la saison cyclonique. Elle débute officiellement aujourd'hui.
Une saison cyclonique qui s'annonce encore une fois très intense dans la Caraïbe. 9 ouragans, dont 4 majeurs, pourraient se développer dans la région. Et puis nous irons aussi en Guadeloupe pour parler de ce projet innovant de ferme voltaïque. À tout à l'heure, Michael.
À tout à l'heure, dans une quinzaine de minutes, Odan. Et bienvenue à tous. Plus de 1500 km de ligne, 5 États traversés, c'est le projet phare du président Obrador. Au Mexique, le train Maya connaît un coup d'arrêt. Un juge vient d'ordonner la suspension définitive des travaux sur l'un des tronçons de cette ligne de chemin de fer, censé à terme parcourir en boucle toute la péninsule du Yucatan. En cause, les procédures d'évaluation de l'impact environnemental qui auraient dû être obtenues avant le début des travaux. C'est d'ailleurs là que le bât blesse. Depuis le début, le projet est très critiqué par les défenseurs de l'environnement, mais le chef de l'État, Andrés Manuel López Obrador, l'a dit, ils ne pourront pas nous arrêter, Gwendolina Duval.
Selon le juge, les travaux ne disposent pas des autorisations nécessaires. Le manque de conformité à la procédure classique d'études environnementales motive sa décision de stopper les travaux. Une décision immédiatement contestée par le président Andrés Manuel López Obrador.
Elle n'a pas de fondement. C'est une affaire politique menée par ceux qui ne veulent pas que les travaux soient exécutés. Cela vient de pseudo-écologistes financés principalement par de grandes entreprises de tourisme.
Il a annoncé que le gouvernement mexicain déposerait un recours pour que la construction de cette partie de la ligne d'environ 60 km puisse reprendre au plus vite. L'année dernière, pour contourner les opposants et sécuriser le déroulement du chantier, le gouvernement a publié un décret déclarant le projet d'intérêt public et de sécurité nationale.
Nous allons poursuivre toute la procédure légale sans aucun problème et nous sommes certains que les travaux se poursuivront. Comme cette partie de la ligne n'est pas très grande, nous les reprendrons et nous rattraperons le retard.
La construction du train Maya, dont le projet a été initié en 2019, a déjà commencé sur de nombreux tronçons. Il polarise fortement l'opinion publique au Mexique. Gwendolina Duval, Mexico, RFI.
Et pour preuve, 300 scientifiques ont signé récemment une lettre ouverte pour appeler à repenser ce projet qui menace un écosystème précieux, comme l'explique Luis Zambrano. Il est biologiste de l'Université nationale du Mexique. Il fait partie des signataires.
Nous sommes en alerte concernant ce projet de train depuis 3 ans, depuis que le président, lors de son élection, a annoncé son lancement. Avec un groupe de scientifiques qui travaillent dans la péninsule du Yucatan, nous lui avons dit « Monsieur le Président, il faut étudier et repenser ce projet, car cette péninsule, qui recèle plusieurs écosystèmes fragiles, est déjà sous pression. Il y a des mammifères de grande importance, comme les singes araignées qui voient leur habitat fragmenté, ou des jaguars qui ont besoin d'énormément d'espace pour se reproduire. » Si on installe un train, cela va limiter cet espace et leur circulation.
Des propos recueillis par Raphaël Morand. Voilà pour ce train Maya. Le Mexique encore où au moins 10 personnes sont mortes dans le sud du pays après le passage lundi de l'ouragan Agatha. Une vingtaine sont toujours portées disparues. Le phénomène qui continue sa course a été rétrogradé hier en tempête tropicale. C'était l'événement hier aux États-Unis, les premiers enterrements des 21 victimes d'Uvalde, une semaine après la fusillade dans cette école du Texas qui a coûté la vie à 19 enfants. Bonjour Christophe Paget.
Bonjour.
Première cérémonie hier donc sous les yeux du pays.
Oui, un plaidoyer pour célébrer la vie alors qu'Uvalde fait face à de nombreuses journées de deuil, titre le New York Times. Nous ne sommes pas ici pour célébrer sa mort, nous sommes ici pour célébrer sa vie, a dit hier le révérend Eduardo Morales lors des funérailles d'Armery Joe Garcia. Le Houston Chronicle note que des Américains sont venus de tout le pays, comme David de l'Ohio, et on ne l'aurait pas cru, écrit le journal, à la vue du cœur rouge qu'il a peint sur une pelouse d'Uvalde, d'où il voyait passer les corbillards en route vers l'église.
Pendant ce temps, l'enquête et les polémiques continuent.
Le récit de ce qui s'est passé et les accusations changent encore, alors que l'enquête est noyée par les dysfonctionnements, titre le Texas Tribune, qui écrit « Le chef de la police du district où se trouve l'école a cessé de coopérer avec les enquêteurs de l'État. C'est lui qui avait choisi d'attendre avant de faire face aux tireurs. Du coup, avertissement inhabituel, note le Houston Chronicle, le plus grand syndicat de police du Texas appelle les autorités d'Uvalde à coopérer à l'enquête. Le journal se fait aussi l'écho d'une manifestation d'enseignants à Austin, entre autres devant le QG du sénateur républicain Ted Cruz, qui avait affirmé que plutôt que de limiter l'accès aux armes, il fallait armer les enseignants. « Nous sommes là pour enseigner, pas pour nous entraîner au tir », lui ont-ils répondu. « Le monde ne s'arrêtera pas si nous mettons en place de meilleures lois sur les armes », complète le Boston Globe. En tout cas, en croire le Texas Tribune, l'histoire nous suggère que l'attention portée à ces législations se sera estompée avant les élections des midterms au mois de novembre.
Du Texas, vous nous emmenez à présent en Colombie-Britannique, Christophe, province la plus à l'ouest du Canada, où l'on dépénalise la possession de petites quantités de drogue, et c'est une première.
Les Canadiens de l'État, âgés de 18 ans et plus, pourront, à partir du 31 janvier prochain, transporter jusqu'à 2,5 g de cocaïne, de fentanyl ou d'héroïne, écrit le Globe and Mail. Explication de la ministre de la Santé mentale et des addictions de Colombie-Britannique, citée par de Toronto Star. La honte et la peur ont empêché les gens d'accéder aux soins dont ils ont besoin. Et la peur d'être criminalisé a conduit beaucoup de gens à cacher leur addiction et se droguer seul. Et se droguer seul peut signifier mourir seul. Dans la province, plus de 2000 personnes sont mortes par overdose l'an dernier, rappelle le National Post, malgré l'état d'urgence sanitaire déclaré dès 2016. La plupart des forces de police n'arrêtent déjà plus pour une simple possession de drogue.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
Les deux mains y suffiront-elles avant que le dossier ne soit bouclé ? En Haïti, un cinquième juge d'instruction est désigné dans l'affaire de l'assassinat du président Moïse, Christophe.
Maître Walter Wesser-Voltaire, plus de 10 mois après l'assassinat, note Alterpres. Jusqu'à cette date, 4 juges d'instruction se sont soit déportés ou ont été écartés du dit dossier, remarque le National, qui estime que depuis la présidence de Jovenel Moïse, la justice haïtienne est quasi dysfonctionnelle. Le Nouvelliste affirme que dans cette affaire, les premiers juges de paix et greffiers ont fait le travail préliminaire. Mais sitôt l'étape du constat et de l'enquête passée, la justice patine. Haïti restera encore longtemps le pays de l'impunité tant que la volonté politique sera absente et que la justice n'aura pas un minimum d'autonomie pour traiter des affaires sensibles, des grosses affaires et des affaires de l'État.
On termine au Nicaragua, le Parlement dissout 83 ONG.
Et la plus grande dissolution d'ONG de l'histoire du Nicaragua, titre Confidential, qui explique qu'il n'y a eu aucun débat à l'Assemblée dominée par les partisans du président Ortega. Argument principal, rappelle Trinchera de la Noticia, ces ONG ne seraient pas enregistrées comme agents de l'étranger alors qu'elles reçoivent des fonds de pays extérieurs. Ces organisations, souligne Confidential, s'occupaient de renforcement de la démocratie, de services sociaux, de protection de l'enfance ou encore de défense des droits des femmes, de l'environnement. Et puis citons aussi de la langue avec la dissolution de la célèbre Académie de la langue fondée en 1928.
Christophe Paget, merci.
RFI.
Restons en Amérique latine. 3 jours après la percée de la gauche en Colombie, qui est arrivée en tête du premier tour de la présidentielle, on s'arrête sur la percée des gauches, au pluriel, dans la région, au Chili, en Bolivie, au Pérou notamment. Depuis 20 ans, les alternances entre gauche et droite rythment la vie politique sur le continent. À quoi cela tient-il ? Arim Lipold en parle avec Jean-Jacques Corlianski, chercheur à l'IRIS, auteur du livre « Progressisme et démocratie en Amérique latine 2021 ».
Bonjour Jean-Jacques Corlianski.
Oui, bonjour.
Votre livre retrace 2 décennies de gouvernance en Amérique latine en mettant le focus sur le gouvernement progressiste, sur l'alternance et la démocratie. Quand on parle de l'Amérique latine, on parle de l'une des régions les plus inégalitaires au monde, une région qui a été bousculée, vous le soulignez bien, ces dernières années par des multiples mouvements sociaux. Vous les citez dans votre livre, des mouvements en Chili, en Colombie ou encore au Pérou. Alors, est-ce que le retour de la gauche au pouvoir, notamment au Chili et au Pérou récemment, est-ce que c'est un résultat justement de ces mouvements de protestation ?
Je dirais oui et non. Oui, parce qu'effectivement, ces mouvements ont reflété un sentiment général de la société, de ces différents pays. Donc ils en ont été, disons, la pointe dure, la pointe avancée, la plus médiatique, mais ils reflétaient un malaise général. Alors, je dirais non, revenant finalement à l'esprit qui justifiait l'écriture de ce livre, c'est la notion de cycle qu'on trouve très souvent, donc une espèce de roue de bicyclette qui tournerait alternativement de droite à gauche, de gauche à droite. C'est une lunette qui permet de catégoriser un moment particulier de l'histoire électorale et politique de l'Amérique latine, mais qui ne permet pas de comprendre le pourquoi de cette mécanique dont l'origine me semble profondément liée à l'échec ou à la réussite de la part d'un gouvernement, qu'il soit de droite ou de gauche, de répondre aux attentes des majorités.
Oui, parce que vous dites que les gouvernements progressistes, par exemple, n'ont pas réussi à changer le modèle économique en pariant sur une économie productive, diversifiée, respectueuse de l'environnement. Ils n'ont pas non plus, écrivez-vous, réformé le système fiscal en augmentant notamment la part de l'impôt direct, donc une réforme qui aurait pu réduire les inégalités et assurer la pérennité des politiques sociales. Alors, pourquoi cet échec ?
Alors, il y a eu une conjoncture extrêmement favorable au niveau international. De 2000 à 2012-13, la demande chinoise a dynamisé la vente de produits primaires, agricoles, miniers, énergétiques vendus par l'Amérique latine. Et donc, quand il y a eu effectivement un retournement de conjoncture à partir de 2013-14-15, donc là, s'est posé le problème du maintien des politiques sociales sans avoir procédé à ces changements structurels. Il y a eu des blocages sociaux brutaux, des résistances donc de la part des catégories les plus aisées et une incapacité des gouvernements à maintenir donc, ces politiques sociales qui se sont traduites au moment des élections dans les urnes par le retour de la droite, qui a été, elle-même a été victime quelques temps plus tard du même retournement dans la mesure où elle n'a pas changé non plus, et ce n'était pas son objectif d'ailleurs, puisque son objectif était de conserver le modèle existant.
Et d'où l'émergence des différents mouvements de protestation ces dernières années.
Voilà, et donc avec un retour des gauches, parce que là, il y a un autre problème, est-ce qu'on peut mettre dans la même catégorie des gouvernements de gauche, entre guillemets, aussi différents que Cuba, où les élections se font avec un seul parti, qui est le Parti communiste cubain, qui a la possibilité de participer aux élections, le Chili ou l'Argentine, où il y a là effectivement des élections libre, et le Nicaragua, où il y a des élections, mais où le gouvernement en place a fait incarcérer les principaux opposants au gouvernement, ou Venezuela, où c'est à peu près la même chose. Et ensuite, même dans les variantes, dans les familles de la gauche, donc le président actuel du Pérou, Pedro Castillo, a été élu au nom d'un parti dont il n'est pas membre, un parti marxiste-léniniste dont il n'est pas membre. En Argentine, on a un péroniste de gauche. Au Chili, on a un représentant de la nouvelle gauche et des mouvements sociaux indépendants. Donc on a une variété, un éventail de représentations qui rend assez difficile de parler comme ça, de regrouper, ça serait la même chose à droite d'ailleurs, mais de regrouper toutes ces familles sous la même étiquette.
Alors pour conclure, Jean-Jacques Kolionski, on a parlé des alternances politiques en Amérique latine, des cycles droite-gauche. Est-ce qu'on peut dire que ces alternances ont-elles renforcé la démocratie ? Comment aujourd'hui, en 2022, se porte la démocratie en Amérique latine ?
Je dirais qu'elle se porte aussi bien ou aussi mal qu'en France, par exemple, ou en Europe. Donc on note un décrochage. L'abstention atteint des taux, alors c'est traditionnel en Colombie, hein, même pour le référendum sur la paix négocié entre le gouvernement de Juan Manuel Santos et les FARC, l'abstention a représenté la moitié du corps électoral. Donc c'est sur un sujet comme celui-là, on aurait pu penser que les électeurs se seraient déplacés. De même au Chili, pour le vote de la nouvelle constitution, sur la constituante. Là aussi, depuis que l'obligation du vote a été supprimée au Chili, on constate qu'environ la moitié des électeurs ne se déplacent plus. Et on assiste parallèlement à la montée, donc c'est pour ça que je fais le parallèle avec la France, les Gilets jaunes et autres, on assiste à la montée de phénomènes sociaux violents dans les rues, dans différents pays. Vous avez cité tout à l'heure le Chili, le Pérou, il y a eu également l'Équateur. On pourrait citer les Mapuches hein, au Chili également, qui sont sur cette même longueur d'onde. Le Chili représente un cas très particulier dans la mesure où le mouvement social au Chili, en dépit de l'abstention très importante dont je parlais tout à l'heure, a généré un accès aux décisions politiques, et notamment après le vote pour l'élection des constituants, de représentants de la société civile. Donc il y a eu une espèce d'extinction ou de mise à l'écart des partis politiques traditionnels comme acteurs participant à l'élaboration des décisions. Il y a eu un saut direct dans chaque région du Chili. Ici, donc, c'est un groupe écologiste, là c'est un groupe féministe. Enfin, donc, en fonction de l'activisme manifesté par tel ou tel groupe, les électeurs ont voté, ils avaient la possibilité de voter pour des représentants de partis politiques, mais ils ont voté dans leur majorité pour des représentants de revendications très concrètes. Comme si, pour eux, il était plus évident d'avoir des non-professionnels mais représentatifs de combats qu'ils ont menés effectivement parallèlement à leurs activités professionnelles plutôt que d'élire des politiciens, entre guillemets, ou des responsables politiques traditionnels. Donc le Chili constitue une espèce de laboratoire. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça ne va pas fonctionner? On va très vite le constater puisque cette constitution qui est en cours d'élaboration doit faire l'objet d'une sanction par voie de référendum ou de plébiscite, comme on dit au Chili en fin d'année.
Merci beaucoup, Jean-Jacques Olianski.
Je vous en prie.
Et son livre « Progressisme et démocratie en Amérique latine », c'est aux éditions de l'Aube.
Le journal de l'Outre-mer.
Bonjour Odana Gialli.
Bonjour Michael.
La saison cyclonique 2022 commence officiellement ce mercredi.
Saison qui s'annonce très active dans le bassin Atlantique Nord. Selon les prévisionnistes, la Caraïbe a 60% de chances de vivre au moins un ouragan majeur. Des données particulièrement scrutées aux Antilles. Les précisions de Claude Gracien de Martinique la Première.
Selon l'Université du Colorado, une référence en la matière, cette saison 2022 pourrait bien être dans le bassin Atlantique Nord, au-dessus de la normale, ce pour la troisième année consécutive. Là où la moyenne s'établissait depuis 1991 à un peu plus de 14 phénomènes, cette fois, il est question de 19 cyclones qui pourraient se voir attribuer un nom entre le 1er juin et le 30 novembre. Parmi ces perturbations tropicales, 9 pourraient se transformer en ouragans, dont 4 majeurs. D'après l'unité américaine de recherche sur le climat, le phénomène La Niña, généralement propices à leur formation dans notre région, restent pour l'instant faibles. Les eaux de surface, en revanche, dans la Caraïbe, sont actuellement plus chaudes que la moyenne habituelle. Il ne s'agit toutefois que d'estimations, même si, rappellent par ailleurs les spécialistes, le passage sur les terres d'un seul ouragan suffit à qualifier une saison d'active. Alors ça, c'est pour les prévisions faites par les Américains il y a quelques semaines. Elles sont en ce moment affinées par les services de Météo France, qui devraient procéder sous peu à une mise à jour.
Claude Gracien, Martinique, la Première. En Guyane, les recherches se poursuivent pour retrouver Benaya Mangal, un jeune de 16 ans, disparu le 22 mai du côté de Mana, à l'ouest du territoire. Sa famille organise aujourd'hui des nouvelles recherches à l'aide de drones. Et puis c'est un projet innovant qui se profile du côté de l'île de Marie-Galante, en Guadeloupe. Une ferme agrivoltaïque devrait bientôt voir le jour à Saint-Louis. L'idée, installer des panneaux solaires sur des parcelles agricoles afin de produire de l'électricité, tout en développant des cultures ou de l'élevage sous les panneaux, projet porté par la communauté de communes de Marie-Galante, sa présidente Marie Zetzol.
Le photovoltaïque devrait permettre que Marie-Galante soit autonome en énergie, puisqu'il va produire suffisamment d'électricité, mais sans condamner les terres, ce qui s'est fait trop souvent du côté de Cap-Estère, où il y a des panneaux photovoltaïques qui condamnent les terres agricoles. Nous voulions que nous puissions profiter de notre agriculture, donc donner une plus-value à nos agriculteurs, et en même temps être autonome en énergie, comme nous l'impose la loi de transition énergétique de 2015, puisque toutes les îles de l'Europe doivent être autonomes à l'horizon 2030. Nous avons entre Grand Bassin et Mayumbe, 25 agriculteurs qui ont des baux avec le département. Donc nous allons les rencontrer individuellement, leur présenter le projet, leur expliquer. Il y en a qui sont déjà d'accord pour y participer. Il y a des études qui sont menées pour savoir qu'est-ce qui se fait sous les panneaux, quelle est la meilleure culture ou élevage à faire sous les panneaux. Par exemple, nous savons que la plus grosse valeur ajoutée, c'est pour tout ce qui est aviculture, donc faire un élevage de poules.
Des propos recueillis par Josiane Champion. Très bonne journée.
Merci beaucoup, Odana Gialli, à vous et aux équipes de La Première qui refermaient ce rendez-vous d'IT des Amériques réalisé aujourd'hui par Hélène Avril. On se retrouve demain pour une nouvelle édition. En attendant, vous pouvez, vous le savez, commenter l'actualité sur notre compte Twitter @RFI Amérique. Très bonne journée à tous.